Nous sommes lundi 11 avril et vous écoutez Proxy Jeux. Et oui, vous écoutez Proxy Jeux, on l'a découvert cette semaine. Bonjour Jérémy.
Bonjour Olivier.
Comment vas-tu?
Non.
Alors pour vous expliquer, c'est le départ foireux de toutes les semaines. Alors ce qu'il faut vous expliquer, c'est que on coupe beaucoup de choses dans Proxy Jeux et on se reprend beaucoup. Donc là, il y a 15 jours, on est parti très très tard, on a eu des fous rires toute la soirée. Et ça a été un petit peu comme ça jusqu'à point d'heure. Et ce qui explique aussi un des commentaires qu'on a eu. La grande nouveauté, c'est les commentaires sur le web, et ça c'est super bien, c'est qu'on a été un peu mou. Enfin, un minuit et demi, quand on a rigolé pendant toute la soirée, c'est un petit peu compliqué. Bon, alors, on va commencer par parler un petit peu de nous, parce que ça fait du bien. Nouveau logo.
Ouais. Un beau logo bien dynamique.
Ouais, avec tout ce qu'il faut, avec des meeples, avec des cartes, des jetons de poker. J'aime beaucoup.
Voilà, il ne nous manque plus que la charte graphique pour le site.
Oui, la charte graphique est en cours de refonte et ce sera fait, on l'espère, assez tôt. Johan, si tu nous entends...
On t'aime.
Voilà. Ok, donc maintenant on est diffusé sur iTunes. Mettez-nous des notes sur iTunes. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur le blog. On a eu un commentaire de Pâques sur la quête du Joker. On en parlera un tout petit peu tout à l'heure. Et puis voilà, premier dossier proxy jeu, rêve de jeu. Jean-Pierre Boilon, rêve de jeu, rêve d'aventure, Pierre Bénite, pas loin de Lyon. Deuxième sujet, toujours un sujet lyonnais, les Pac-Man urbains, avec Clément Chêne qui a eu la gentillesse de venir nous en parler. Alors, les Pac-Man urbains sont organisés actuellement à Moi je m'en fous, je triche, qui est une association, un bar à jeux lyonnais. Les prochains Pac-Man urbains auront lieu le 7 mai et le 4 juin, donc n'hésitez pas à vous rendre sur les pentes de la Croix-Rousse. Et participer. Je pense que vous trouverez sur le site de la Triche ce qu'il faut pour vous inscrire. N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.pacmanalyon.net. Il y a tout le matériel nécessaire pour créer soi-même, pour organiser soi-même un Pac-Man urbain. Ça s'entend peut-être un petit peu, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais Clément est un petit peu las en fait d'organiser ça tout seul, donc il serait très très content d'être épaulé, repris par une association. Donc vous les Toulousains, si vous entendez, organisez des Pac-Man urbains. Ludo Lega, si tu nous entends, organise des Pac-Man urbains pour la fête du jeu. Vous tous en France, organisez des Pac-Man urbains. C'est complètement libre de droit, complètement gratuit et c'est super sympa.
Sauf si un jour Namco fait un procès. Bah, c'est le créateur, je pense, de Pac-Man à l'origine du jeu vidéo.
Alors, il faut qu'il vienne d'abord.
Il faut qu'il vienne nous voir. Par contre, l'interview est super intéressante, comme d'habitude. Et on a vraiment envie, quand on l'entend, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Quoi. Par contre, Olivier, puisqu'on parle du Pac-Man, je voulais en profiter, deux choses. Je voulais citer l'arrivée sur console il y a déjà quelques mois, mais on a mis à aller. Si vous êtes fan des Pac-Man, il y a eu le...
Excuse-moi. Quelle console?
Alors, là, c'est PS3 et Xbox 360. J'allais y venir après. Ils ont sorti le Pac-Man Championship Edition DX. Alors, tout le monde connaît le bon vieux Pac-Man. Ah ouais, le nom, il est long comme ça, mais c'est pour ça.
Championship Edition DX.
Ouais, Director's Cut.
Ouh.
Ouais, alors, j'ai pas joué la version pas Director's Cut, donc je sais pas. Alors, donc... Tout le monde connaît le principe du Pac-Man où on déplace un petit bonhomme jaune au milieu dans des couloirs pour manger les packs gomme avec les fantômes.
Si vous ne connaissez pas le principe, vous allez sur notre blog et j'ai mis un raccourci pour aller jouer. Donc vous pourrez jouer en flash sur le site.
Non mais tout le monde connaît, c'est pas possible. C'est l'ancêtre du jeu.
Si toi, poditeur, tu ne connais pas Pac-Man, laisse un commentaire.
Voilà. Et donc dans cette version-là, ils ont tout revu. Parce que bon, le Pac-Man, moi personnellement, j'aurais du mal encore à rejouer au vieux Pac-Man. Mais dans cette édition-là, on retrouve le petit Pac-Man qui doit croquer ses packs gomme mais le plateau change en permanence. Il y a une musique qui commence gentiment, Pac-Man avance doucement au début, mange ses pas-gommes. Et en fait, les fantômes, il y en a quelques-uns qui se déplacent, mais la plupart dorment. Et c'est en passant à côté qu'on les réveille et qu'ils vont nous courser. Alors, au début, on en a un, deux, trois, à la fin, on en a 15 fantômes qui courent après Pac-Man.
Qu'est-ce que tu entends quand tu dis que le plateau change tout le temps?
En fait, on ramasse toutes les pagomes qui sont à l'écran. Il n'y en a pas autant que dans le jeu normal, il n'y en a que dans quelques couloirs, il faut toutes les ramasser. Quand on les a ramassées, il y a un fruit qui apparaît. Quand on mange le fruit, la moitié du plateau, à peu près au moins un tiers à gauche ou à droite, change. Donc les couloirs, etc. sont différents, des nouveaux fantômes apparaissent.
C'est évolutif.
Ouais, ça change l'apparence. En fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement à fond dedans qu'on ne fait pas gaffe. Et donc plus ça va, plus on a des fantômes derrière soi. Et heureusement, de temps en temps, on a la vraie pack-gomme, celle qui permet de manger les fantômes.
Et là, c'est la razzia.
Et là, ça part à fond dans l'autre sens. Là, on course les fantômes et on se fait des séries de 10 fantômes d'un coup.
Donc c'est pas du tout multijoueur.
Ah non. Celui-là, il est pas du tout multijoueur, il est que sur console. Mais vraiment, vraiment, c'est un excellent remix du vieux Pac-Man. C'est la musique en plus, donc le jeu s'accélère au fur et à mesure des niveaux. C'est une musique un peu techno qu'ils ont mis, mais qui gêne pas.
Il va falloir. T'es en train de me dire qu'il va falloir encore que je la trouve en post-prod et que je la remette. Il faut qu'on change parce que William Lemergy, ça va bien deux minutes, mais on mettra autre chose.
On mettra autre chose. Bon, d'accord. Okay. Voilà. Et l'autre truc de Pac-Man qui n'a absolument rien à voir encore une fois avec le jeu.
Ah, excuse-moi, petite question. Est-ce que c'est gratuit?
Ah non.
Pac-Man Director's Cut.
Ah non. Ah bah non, jamais.
Est-ce que tu as le prix?
Alors sur la Xbox, il est vendu 800 points à Microsoft, donc ça fait l'équivalent de 8-10 euros.
Mais ça les vaut.
Ouais, j'attends qu'il soit. Il y a eu des promotions, il faut attendre les promotions. Quand il est à 400 points, j'ai attendu, il a été en fin février, il a été à ce prix-là.
D'accord. Pour nos amis qui aiment la Xbox 360, une aparté qui n'a rien à voir, achetez Limbo. Voilà, c'est un message subliminal.
Bravo, ça n'a vraiment rien à voir. Et sur PS3, je ne sais pas. Globalement, c'est sur le PSN, je ne sais pas combien c'est vendu.
C'est pas grave.
Mais voilà, c'est le problème, ces prix-là.
Ami de la PS3, tu trouveras.
Voilà. On continue la partie Pac-Man ? C'est pas grave, on va avoir déjà fait 10 minutes sur le
jeu. Alors, je vous annonce un numéro 3.
Ouais, et mon Pac-Man ?
Non, je vous annonce.
On est prêt à aller d'un super projet là sur YouTube, on mettra la vidéo.
Non, mais attends, je vous annonce un numéro 3 qui n'en finira pas. Ah. Vas-y, tu peux y aller.
Je voulais citer aussi une petite vidéo qu'on peut trouver sur YouTube qui est faite par. C'est une sorte de Pac-Man. Il n'est pas urbain, mais il est humain aussi, celui-là.
Avec les gens dedans.
Avec les gens dedans, ouais, qui se prennent en photo, en fait, dans les salles de cinéma. C'est le Suisse, enfin, le Franco-Suisse Guillaume Raymond qui fait ça. Ouais, je crois qu'Olivier, je tiens le toit à la vidéo.
Ah oui, j'ai vu.
C'est excellent. En fait, donc...
C'est du motion picture.
Ouais, on peut dire ça comme ça.
Oui.
Donc, c'est une caméra qui est placée en hauteur, qui prend en photo une salle de cinéma, mais uniquement le public, pas l'écran. Il y a des personnes qui sont placées un peu partout, et en fait, ça dessine le parcours. Et puis ils font une photo à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge à l'écran, donc le Pac-Man par exemple ou les fantômes.
Ouais, c'est incroyable.
C'est vraiment super. Donc il faudra qu'on mette la vidéo parce que bon, il a fait d'autres trucs. Hein. Il a fait un Tetris, il a fait un Space Invaders, mais je trouve que le Pac-Man c'est sans doute sa plus belle réussite.
Mais t'es en train de me donner du boulot, c'est ça?
Ouais.
Ok. Et donc vous aurez tout ça sur podcast.proxy-jeu.fr. On va mettre tous les liens, vous aurez de toute façon tous les liens de ce dont on va parler ce soir. Alors, on vous a parlé il y a 15 jours, des jeux de cartes évolutifs. Je vais vous mettre également un lien vers un article en anglais. Alors, excusez-moi si vous n'êtes pas anglophone, vous utiliserez Google Translation. Vous pourrez utiliser Google Translation.
À vos risques et périls.
À vos risques et périls. Mais bon, globalement, l'auteur a fait la comparaison entre les jeux de cartes à collectionner, les jeux de cartes évolutifs et les jeux de cartes comme Dominion. Tu m'as dit que ça s'appelait les...
Mais ils appellent ça...
Deck Building...
Ouais, DBG, c'est Deck Building Game.
Voilà, Deck Building Game. Donc, voilà. Donc, et globalement, ce qui revient le moins cher, c'est les DBG, puisqu'en fait, c'est assez maîtrisé. Je suis passé chez Trollune, qui est une boutique lyonnaise, cet après-midi, enfin, entre midi et deux. Et j'ai vu nombre d'extensions pour le Trône de Fer et même l'Appel de Cthulhu, c'est incroyable.
C'est ce que je te disais il y a deux semaines. C'est énorme. Dans les boutiques, ça prend une place folle maintenant. Ouais. Mais ils sortent un rythme effréné.
Donc il y en a. Oui, c'est en fait en fin de compte le rythme maîtrisé de 3 extensions par an, c'est toujours le cas à Magic. Ouais. Tu le retrouves pas. T'as l'impression que c'est toutes les semaines et en fait les
on va dire tous les mois.
Non, j'ai dit. Tu as l'impression que c'est toutes les semaines. Mais non, c'est tous les mois.
Bah, peut-être, oui, parce qu'il y a une semaine, c'est Trône de Fer, une semaine, c'est Cthulhu, une semaine, ça va être Saint-Zano.
C'est ça.
Mais bon, après, t'es pas obligé de tous les acheter non plus.
Non. D'ailleurs, je n'ai pas craqué. J'attends le jeu de cartes évotif, le Seigneur des Anneaux.
Oui, j'ai
il
vu.
Il n'est toujours
vu.
Pas sorti. On vous il, avait aussi
il
parlé.
Il est annoncé pour mi-avril. Et bon. J'ai vu que sur son site Edge parle déjà de.
Du
des
retard
des prom- Non, non. Non, non, stop. Ils sont déjà assez habitués. Ils en parlent plus. C'est une coutume. Mais non, ils m'ont parlé d'extensions. Ils parlent déjà des premières extensions qui vont accompagner le Seigneur des Anneaux. Il faudra partir à la chasse de Gollum. Si j'ai bien lu.
Gollum. Mon précieux.
Et voilà, non, l'article est intéressant, mais il s'intéresse que au portefeuille et pas à l'intérêt qu'on a dans les parties. Et le calcul sur le jeu de cartes à collectionner, ça dépend comment on y joue.
Oui, mais c'est très compliqué quand on est rentré dans un jeu de cartes à collectionner, de se maîtriser, de se dire je vais acheter un seul paquet ou 10 paquets.
Non, il faut acheter les 7 par 7 de cartes, il faut pas acheter les boosters, parce que là, c'est
what?
Perdu. Un set.
Ça veut dire quoi? C'est quoi un set?
Un set, c'est la collection des cartes, de toutes les cartes uniques. Par exemple, il y a plusieurs niveaux de rareté, tu peux acheter que les communes et les unco, les inhabituels. Par exemple. Et en x4, puisque tu auras les mettre 4 fois dans le deck. Comme ça, c'est parfait, tu peux déjà bien jouer.
En boutique?
Entre amis. Ouais, en boutique, non, alors pas en boutique. eBay est votre ami.
eBay est votre ami. Alors, vous ferez un mail à jeremy@proxyjeux.fr et vous expliquera comment vous procurer ces sets.
D'ailleurs, il va bientôt falloir que je mette en quête du prochain set Magic.
Et puis, dans le numéro 2 de l'actu, on a quand même pas mal parlé de la quête du Joker, la Joker Quest. Si tant est qu'on a eu un petit commentaire de Pâques, qui est revenu un petit peu, c'est la personne...
C'est le webmaster qui a mis en ligne
la quête du Joker.
La quête du Joker.
Tout à fait.
Voilà.
Donc, si vous voulez...
Il a trouvé qu'on se moquait un petit peu, je crois, de la quête du Joker. On va resituer le contexte. Donc, nos enregistrements du soir ne sont pas toujours évidents et il faut couper les faux rires. Et donc, la quête du Joker s'est retrouvée à faire le fil rouge de la soirée entre nous. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, on pourrait croire qu'on s'en moque. Dans la réalité, un petit peu quand même, dit Olivier. Ouais,
un petit peu, mais en fin de compte, c'est pas lui rendre justice.
C'est bien pensé. Pour un petit truc gratuit, c'est très sympa. Les petites idées des carreaux qui représentent, je sais plus, les armes, l'autre truc qui représente les objets, etc. Pour au niveau des monstres, c'est pareil. Ça permet vraiment de raconter une histoire. Par contre, comme Rémi Olivier dans sa réponse, un adulte, on a encore du mal à se raconter une histoire comme ça maintenant. On a vieilli, on est devenu plus, je sais pas. C'est triste.
Oui, je pense que ça rejoint en fait la tendance actuelle avec le jeu narratif. Peut-être que c'est moi et que je découvre ce truc-là. Je pense que c'est pas que moi parce que la boîte à eux, qui est une maison d'édition.
Il fait du teasing, Olivier, là, attention.
Donc la boîte à eux est rentrée sur ce créneau-là. On va vous en reparler un petit peu plus tard. Et je pense que. La quête du Joker, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le ludique, donc à réaliser des actions, on est dans le narratif, à se raconter des histoires. Et que dans ce sens-là, c'est quelque chose de positif. Maintenant, la problématique, c'est se raconter à soi des histoires. Alors, si on va un peu plus loin, le jeu de rôle, il y a rôle. Et ce que je n'ai pas forcément dit dans le commentaire, c'est jouer un rôle pour soi-même, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire jouer un rôle pour les autres, se mettre en scène et puis faire croire à quelqu'un qu'on est contrôleur des impôts ou ça je l'ai déjà fait donc bon ça c'est rigolo mais alors
en espérant qu'il n'y en ait pas trop qui nous écoute hein.
C'est pas grave,
qui va être contrôlé cette année.
C'est pas grave, je crains rien, je crains de gain comme on dit là-bas et donc se faire enfin jouer un rôle tout seul c'est beaucoup plus compliqué
mais ouais. Ceci dit, j'ai pas eu l'occasion là depuis qu'on s'est enregistré il y a 2 semaines, mais je me suis dit que j'allais le faire, c'est le jouer avec les enfants. En changeant un petit peu la règle, je pense qu'il y a moyen, moi je prends les cartes pour faire la partie maître de jeu, et les enfants prennent les cartes de leur côté et vont les retourner pour faire l'histoire. Ils vont devoir bâtir l'histoire, je pense que ça peut se faire.
Tout à fait. Dis-moi, Jérémy, tu te souviens quand je t'avais parlé des conférences TED?
Oui.
Et tu te rappelles ce que je t'avais dit que, en fait, les conférences TED durent à peu près une vingtaine de minutes pour ne pas perdre l'auditoire. Donc là, on est à 20 minutes, donc vous pouvez couper ce podcast.
Voilà, vous pouvez reprendre l'activité normale pendant un petit moment.
Tout à fait, allez, vous faire un sandwich, boire un coup, puis vous reviendrez tout à l'heure. On va peut-être passer au numéro 3, en fin de compte.
Allons-y.
Non, on va commencer par l'actualité ludique. Si tout se passe bien, je vais mettre en ligne ce podcast jeudi soir, vendredi plutôt. Vendredi dans la journée. Ce qui veut dire que vous pourrez l'écouter
vendredi,
on sera le 15. Et donc les événements à venir, le dimanche 17 avril, si vous êtes sur Nancy ou à proximité, rendez-vous à la fin de l'ours qui se trouve 39 rue de Mont-Désert pour un tournoi de Catan. Donc, le Coulon de Catan, c'est un grand ancien du jeu de société. Les inscriptions peuvent se faire par mail ou au bar, parce que c'est un bar associatif, et le tournoi commence à 14h30. Si vous êtes dans l'Aude, la ludothèque Ludaude à Luc organise en fin d'après-midi vendredi 22 avril à partir de 16h30. Un événement où on pourra jouer, c'est une entrée libre, buvette et tartinerie bio seront dégustées sur place. Parce que je sais que quelqu'un à Bâle
nous écoute,
est allé sur notre site, alors je parle pour lui, la fête du jeu au casino de Saxon. Alors ça dure de vendredi à dimanche, vendredi 29 avril au 1er mai. Quelques chiffres, c'est la 18e édition du fête du jeu en Suisse. Ils attendent à peu près 2000 visiteurs. Il y a 3000 jeux disponibles, dont certains en prêt. Du jeu de rôle, 42 parties de jeu de rôle seront organisées. Des conférences, 10 tournois, 10 clubs, associations à l'audiothèque à votre service. Donc c'est énorme. 67 bénévoles impatients de répondre à vos questions. L'entrée pour un jour pour une personne, c'est 5 francs suisses. 10 francs pour le week-end. Et puis ils ont des tarifs qui sont vachement sympas parce que c'est dégressif. Et pour une famille de 5 enfants... pour une famille de 2 parents, 3 enfants, et plus, on est à 15 francs suisses par jour et 30 francs suisses pour le week-end. Pour résumer, du jeu de société, du jeu de rôle, soirée enquête, GN, jeu géant, chasse au trésor, allez-y, allez en Suisse. Donc j'en profite, nous avons une page Facebook, nous avons un Twitter, vous cherchez Proxy Jeux sur Facebook ou vous cherchez Proxy Jeux sur Twitter, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, si vous avez envie qu'on annonce un événement, il n'y a aucun problème pour qu'on le fasse, parce que...
Ce sera même avec plaisir.
On veut parler aussi des choses qui se passent pas loin de chez nous, pas loin de chez vous, et voilà. Et donc, Jérémy, je voulais aussi te parler de quelque chose que j'ai découvert très récemment. On parlait de la quête du Joker tout à l'heure. On parlait du jeu de rôle narratif. Et la boîte AE, avec deux H, H-E-U-H-H, la boîte AE édition, propose des jeux narratifs. Alors, c'est des jeux à deux ou plus. Donc, ils ont au catalogue Suite Agatha, qui est un jeu réellement uniquement pour deux joueurs. Qui est vendu à peu près 15 €. Après, tu as Dirty Secrets, qui est un jeu multijoueur, c'est-à-dire que tu peux jouer 3-6, je crois, qui est vendu 18 €. Alors,
parce que 2, c'est pas multijoueur.
C'est vrai.
Par rapport à laquelle jeu car, c'est tout de suite plus multijoueur.
C'est ça. Alors, donc, on n'est pas dans un jeu de rôle solo, on est dans un jeu de rôle. Multijoueur, et donc on est dans un jeu de rôle narratif, où on va se raconter une histoire, où l'histoire est plus importante. Il n'y a pas de MJ, il y a très peu de règles, il n'y a parfois pas de dés, et dans Dirty Secrets, les actions se résolvent au Perudo, c'est-à-dire que les joueurs qui sont autour de la table vont se raconter une histoire, et quand il y aura une incompatibilité, qu'on va vouloir arrêter le jeu et puis aller dans une autre direction, alors Dirty Secrets, j'ai dit qu'il n'y avait pas de maître du jeu. Il y a quand même un enquêteur qui n'est pas vraiment un maître du jeu, mais qui a un rôle un petit peu à part. Quand il y a un antagonisme entre l'enquêteur et un des joueurs, ça se résout au Perudo. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que le Perudo. Donc le Perudo est un jeu de dés qui est un très, très bon jeu de dés qui consiste à bluffer. Donc au départ, tous les joueurs ont 5 dés dans un petit bocal, un petit verre, un petit... aide-moi.
Un gobelet.
Un gobelet. C'est le contenant que j'arrivais pas à trouver. Ouais. Donc tous les joueurs ont 5 dés dans un gobelet, tout le monde va secouer son gobelet, le retourner sur la table et va regarder le résultat des dés. Donc tu vas avoir en moyenne un 1, un 2, un 3, un 4. Et s'il y a 5 personnes autour de la table, on va commencer à annoncer, faire ses annonces. Et je vais dire j'ai 1, 1. Ou alors je vais dire même mieux, j'ai 2, 1. Et tu vas pouvoir dire, tu vas pouvoir augmenter le nombre de 1 que tu penses qu'il y a autour de la table, ou alors tu vas pouvoir passer au 2. Je dis il y a 3, oui. 1. Et tu vas pouvoir dire non, il y a
3, 2.
3, 2. Et donc au fur et à mesure, on va de toute façon aller vers plus de dés. Et au bout d'un moment, ça sera... c'est pas possible, il y aura un problème, quelqu'un va dire non tu bluffes, et on va regarder si effectivement tu bluffes.
On regarde tous les dés autour de la table.
Tout à fait, on va compter le nombre de dés annoncés, et si je dis que toi Jérémy tu bluffes,
jamais.
Si... donc si j'ai raison tu perds un dé, si tu as raison, enfin si tu ne bluffais pas, alors je perds un dé.
Bien
donc ça c'est le... oui tout à fait. Bien fait.
Vilain, vilain.
Voilà. Ça, c'est le principe du Perudo. Donc, les actions à Dirty Secrets, parce que c'est de ça qu'on parlait au départ, se résolvent au Perudo. Et en fin de compte, plus l'écart entre ce que j'ai annoncé et la réalité est grand, et plus l'impact sur le jeu va être grand.
Mais c'est pas long.
C'est pas, pardon.
Long, la parenthèse Perudo dans la partie. Alors, c'est un Perudo K2, j'imagine, mais...
Non, a priori, parce qu'en fait, tu te racontes une histoire, tu continues à te raconter une
avec
histoire.
Avec le Perudo.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu annonces et tu vas dire, bah voilà, si c'était un combat, McLaren lui donnait un grand coup dans le, un grand coup de poing dans le ventre. Et
annonce à 2-1.
Et 2-1.
D'accord. Voilà. Ah oui, il faut vraiment rester tout le temps dans l'esprit jeu de rôle.
C'est ça, oui, il faut construire autour de ça. Et sans aller, enfin, il faut rester quand même, faut faire attention, hein, ne pas aller trop loin. C'est un petit peu comme si ton personnage, je peux pas dire non plus, ben voilà, je prends le manche à balai puis je te donne un grand coup sur la tronche. Faut t'attendre à ce que le gars, il est un petit peu mal, voire même à ce qu'il s'en relève pas. Donc là, c'est un petit peu pareil.
Enfin, d'accord.
Alors, Dirty Secrets, si vous avez envie de savoir comment ça se passe, il y a un compte-rendu parti sur le site de la boîte à eux. Je vais vous mettre le lien et puis vous irez voir. Donc, Dirty Secrets, un jeu qui se joue. Je crois que certaines parties peuvent être assez courtes. Il faut compter 3-4 heures.
3-4 heures ?
Oui, pour un jeu moyen. Ça reste du jeu de rôle. Ouais, c'est-à-dire que c'est quelque chose où tu vas construire ton histoire.
Oui, je pensais que c'était plus court que ça quand même.
Non, non. Enfin, il y a une version plus courte et puis il y a une version beaucoup plus longue en fait.
On peut couper ? Ouais, oui, comme un jeu de rôle.
On peut jouer ça en campagne. Et puis, alors la troisième nouveauté, alors, ils ont encore une quatrième publication qui va sortir dans quelques temps. Par contre, j'allais dire la troisième publication que vous pouvez trouver en boutique. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'il faut aller sur le site de la boîte à eux. Et puis acheter là-bas, parce que sinon vous ne trouverez pas. J'ai fait tous les magasins de Lyon et j'ai rien trouvé. Donc c'est Parsley Games. Alors, est-ce que tu connais...
Non.
Non. Est-ce que tu connais les jeux textuels PC ?
Non.
Non plus, ok.
Non. Ah, on part de loin, là.
Oui, on part de loin. le jeu textuel, en fait, c'est des vieux jeux datant des années 80, où en fait, il fallait rentrer des commandes et où... une histoire se déroulait, il y avait une histoire qui était racontée par l'ordinateur et où, grâce à des commandes, aller à droite, aller à gauche, taper monstre, tu pouvais avancer dans l'histoire. Mais là, c'est un petit peu pareil. C'est le même principe. C'est un jeu, plutôt un jeu pour rire, pour s'amuser. Un jeu d'ambiance. Plutôt un jeu d'ambiance pour passer du bon temps avec ses amis, pour raconter une histoire et puis se dire n'importe quoi et surtout n'importe quoi en fait.
Il y a déjà plein de jeux comme ça.
Oui, mais là c'est
différent, mais ça me fait penser à d'autres jeux, mais c'est bien, ça peut en mettre d'autres dans la bibliothèque.
Tout à fait. Et puis là, alors c'est quelque chose, c'est un petit bouquin, ça vaut 6 €, il faut que ça se trouve en fait, s'il vous plaît monsieur E, il faut vite que vous soyez distribué dans les boutiques en dur. puis sur Internet aussi. C'est donc la spécialité en fait de la boîte à eux, c'est de récupérer des jeux outre-Atlantique et puis surtout de les faire connaître au grand public, parce que c'est plutôt des jeux de rôle indépendants, un peu underground.
Quand je parlais d'autres jeux, c'était Seigneur des Ténèbres, etc. Où les joueurs vont broder pour envoyer la faute sur l'autre. C'est que du jeu narratif aussi. Tu connais pas ?
Oui, comme il était une fois.
Non, mais c'est différent encore. Là, il y en a un qui est le donjon, enfin qui est le jeu maître du donjon. Et en fait, les autres joueurs jouent les larbins qui ont raté la mission. Et donc, ils vont essayer de se rejeter la faute les uns sur les autres. Un peu à la Il était une fois, etc. Mmh. Et à la fin, donc, le maître du donjon a tous les droits et peut décider de mettre des cartons, en gros. Au larbin quand il estime que c'est eux qui ont fait la faute.
Donc ça c'est la même collection que Munchkin.
C'est ça. Mmh. C'est la même collection que Munchkin. Ils oui, ont fait d'autres trucs avec Oui honorable parrain, etc. Je crois.
D'accord. Oui, c'est des jeux pour passer un bon moment, c'est bien. Et donc Jérémy, la mode du jeu de rôle narratif se concrétise grâce à un concours. C'est un concours qui s'appelle Vieux Pot, Nouvelle Soupe. Le principe est simple, tu prends un jeu de rôle que tu aimes, que tu as aimé il y a 20 ans, et puis tu le transformes en jeu narratif. Donc ça peut être par exemple une SMV que tu vas transformer en jeu de rôle narratif et puis un jeu de rôle plus orienté action. Donc c'est narrativiste.eu qui fait ça. Il y a tout un règlement, c'est un peu complexe, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Par contre, je pense que ça conforte un petit peu la tendance. Qui est de dire que on rentre dans quelque chose de nouveau dans le jeu de rôle et que ça confirme un petit peu cette tendance là. Je sais pas ce que t'en penses. Rien. Il n'en pense rien.
Le seul jeu de rôle avant que j'ai connu en fait c'est narratif parce qu'on jette quasiment plus de dés. On fait plus que raconter de l'histoire, mais on peut le faire avec n'importe quel jeu de rôle en fait. Tout dépend si on fait passer le rôle ou le jeu avant tout.
Oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est que dans Magna Veritas. L'important, l'action est au cœur du jeu.
Ouais. Oui, c'est ça, quand même... tout est dans le ton, tout est dans le...
Voilà, il y a quand même un combat entre...
Mais c'est important d'en céder, parce qu'on pouvait faire des fois les 111, les 666.
Protagoniste. Il me coupe la parole.
Ouais, mais je déteste ça. C'est important de faire les 111, c'est l'intervention divine.
Tout à fait.
Donc, voilà. Non, le seul jeu narratif qui existait à l'époque, c'était Ambre. Ambre, c'était un jeu de rôle sans jet de dés. Tout était décidé par avance en fonction des caractéristiques. Si on rencontrait un personnage qui est plus fort que soi à l'épée, on ne pourra pas le battre, quoi qu'il arrive. Et c'était tout le difficile pour le MJ de faire comprendre aux joueurs que son personnage ne pouvait pas gagner le combat et qu'il fallait qu'il cherche autre chose.
Oui, c'est un petit peu le. Tu pars du postulat que un lambda ne pourra pas gagner contre un champion d'échecs. Et donc, inutile de jeter les dés, de toute façon, il va perdre.
On n'est quand même pas des lambdas dans Ambre, mais c'est ça.
Oui, c'est ça. Tu peux nous rappeler un petit peu le contexte de Ambre ? Non.
Alors, le jeu de rôle ?
Il peut le faire.
C'est inspiré de l'œuvre de Roger Zelazny, à la française, hein, je vous le fais. Faut résumer le livre ? Non, c'est dommage pour les auditeurs. Donc, en
un
gros,
petit peu le background.
Donc, alors c'est vieux. En gros, donc l'histoire, c'est un ordre un petit peu dans pas mal de livres de science-fiction, c'est qu'il y a plusieurs univers parallèles en fait. Nous, on vit sur un, c'est la Terre, mais il en existe des tas avec des toutes petites modifications qu'on ne perçoit pas. Et nous, on ne peut pas se promener d'un plan à l'autre.
Un peu comme dans Sliders.
Je sais pas.
Tu ne connais pas Sliders ?
Non, mais attends, on va encore faire une parenthèse. Et donc, les princes peuvent se déplacer d'un monde à l'autre. En fait, ils ont ça, c'est naturel. Ils peuvent se déplacer comme ça et aller un peu partout. Et donc, ils ont bien sûr des super pouvoirs. Et ils se battent pour la succession. Le roi a disparu. Et donc, les 10 princes et princesses vont se disputer le trône. Donc, pas mal d'intrigues. C'est pas mal du tout. Il y a 2 cycles. Le premier de 5 volumes. Et le suivant, qui fait 5 volumes, mais qui n'est pas terminé, parce que l'auteur a décidé de mourir, malheureusement, avant d'avoir fini son œuvre. C'est catastrophique. Donc, cher auditeur, lis au moins le premier cycle si tu ne le connais pas. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment prenant.
évite le trône de fer parce que ça ne finira jamais avant la fin de la vie de notre
pauvre. Non, mais le trône de fer, c'est différent parce qu'en fait, ça peut ne jamais se terminer, c'est pas grave. En fait, il y aura toujours. Enfin, on voit bien comment est fait le livre, c'est pas grave. Alors que Ambre, il y a quand même vraiment une intrigue qui se met en place et à la fin, on ne saura jamais. Ça fait mal. Déjà qu'on a attendu, les lecteurs assidus ont attendu 10 ans entre le 9e et le 10e tome de Ambre. Et en plus, après le 10e, il y a celui qui meurt, c'est vraiment dommage.
Et donc le premier cycle dure 5 tomes et le deuxième également 5 tomes, mais ça ne finit pas.
Voilà, c'est ça. Le deuxième cycle, c'est les enfants en fait, des princes du premier.
Ok. Alors juste pour revenir à notre jeu de rôle narratif, parce que c'est quand même de ça qu'on était. On est parti de ça. Donc il y a la théorie LNS qui concerne la pratique du jeu de rôle. En fait, elle classe les jeux de rôle dans trois catégories. Il y a le ludisme. C'est une activité où chacun des participants montre qu'il est capable de prendre des risques, d'établir des tactiques, de diriger, d'avoir de la chance. Donc là, on est typiquement dans un jeu de rôle classique. On est reconnu et estimé si on réussit ses tâches. Forcément, je dois ouvrir une porte. Je dois trouver un objet caché, ça c'est facile.
Toulouse.
Tout à fait. Je dois
défoncer un démon.
Tout à fait. Et donc là, on est vraiment dans le ludisme. Et donc l'article Wikipédia dit cette activité est comparable au jeu de société, au sport ou à la course automobile. Et le narrativisme, l'activité où les participants élaborent une histoire porteuse de sens. On est reconnu et estimé pour avoir contribué à l'histoire d'une manière mémorable. Cette activité est compatible au théâtre, à la poésie. Donc on est plus pour moi dans cette. Même si dans Ambre, on ne jette plus de dés, c'est vrai que c'est déjà le début de quelque chose qui est plus pur par rapport à l'histoire qu'on va raconter, puisque on n'a pas ces moments de ces hachures en fait dans
ça
le.
Ça coupe pas le jeu.
Tout à fait. Mais on n'est quand même pas, on est quand même pas au narrativisme. Et puis il y a un troisième.
Non mais ça vient de la façon dont t'es fait le jeu de rôle jusqu'ici, où il y a un maître de jeu qui est le seul à connaître l'histoire et qui l'a fait découvrir. Ensuite, les joueurs n'interviennent que par leurs actions. Alors que maintenant, dans le jeu de rôle narrativiste, il n'y a pas de MJ, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Tous les joueurs contribuent, donc forcément, tout le monde peut contribuer à l'histoire, il y a pas de. C'est plus simple.
Tout à fait. Et puis, une troisième classe, c'est le simulationnisme. Pardon. C'est une activité où les participants célèbrent un lieu différent, une période différente, un monde différent. La reconstitution historique, le modélisme ou les fan clubs. Enfin voilà, donc vive le narrativisme. Vive la boîte à eux et puis longue vie surtout à ce qui est en train de sortir. J'espère encore une fois qu'on pourra le trouver un peu plus facilement parce que là c'est un peu compliqué à trouver, c'est bien dommage. Bon bah avec tout ça on va peut-être parler un petit peu de jeux de société aussi, je t'en dis.
Allez, avec plaisir.
Avec plaisir.
Qu'est-ce que tu nous annonces de beau ?
Moi, alors, d'abord, je vais vous passer quelque chose, et puis, alors, je vous passe ça, et puis on en parle.
Je m'appelle Alexandre Astier, je suis un paladin.
C'est moi qui chapeaute un petit peu tout le...
Tous ensemble, mes braves compagnons.
Ouais, enfin, tous ensemble, ça veut pas dire à vous, 10 mètres derrière.
Oh, et vous barrez pas ! Oh, vous revenez ou je vous savate ?
Je m'appelle Alexandre Astier, je suis un paladin. Et toi ? À quoi tu joues ?
Et donc, Jérémy, tu vas me demander pourquoi je t'ai passé ça.
Et pourquoi, Olivier, tu m'as passé ça ?
Eh bien, parce que Alexandre Astier a annoncé, lors d'un petit entretien, d'une interview, qu'il voulait faire beaucoup de choses avec Kaamelott. Donc, tu connais peut-être la BD Kaamelott. Il a envie de faire du jeu de société. C'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, j'espère que...
Ça dépend qui fait le jeu de société, après.
Alors, ça, c'est la deuxième bonne nouvelle.
Parce que apprendre ou aller essayer de TF1, non merci.
Alors, c'est la bonne nouvelle, et puis c'est aussi la mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il va devoir changer son nom, et il va devoir remplacer son I par un Y.
Ah, c'est chez Istari.
Tout à fait. Donc, pour moi, ça sent bon. C'est-à-dire que Istari, c'est une maison qui est quand même sérieuse, qui va nous faire un vrai jeu. Donc, a priori, pas du apprendre ou à laisser. Et puis, j'aime beaucoup ce que fait Alexandre Astier, de toute façon, toute la famille Astier. On va peut-être un petit peu digresser, mais HeroCorp,
j'aime
j'adore.
Pas du tout. J'allais dire non, pour moi le frère est loin du niveau de l'aîné, mais bon.
Non, non, mais après...
C'est mou. C'est un peu comme notre podcast, c'est mou.
Ah, c'est...
Chez moi, madame a regardé tout, laisses, mais moi non.
Tu me laisses sans voix, là.
Ah ouais.
Bon, moi, j'adore HeroCorp. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie... un vrai monde, en fait. Il a construit quelque chose. Et en plus, la saison 2 par rapport à la saison 1, avec le même budget, il a fait quelque chose de grandiose. Et puis, il a su développer son...
Il n'y avait pas de mal à faire mieux que la saison 1.
Ah là là. Bon, tout ça pour dire que Istari va produire du Astier et du Camelot. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, je crois que tu as également ta bonne nouvelle ce soir, cher ami.
Oui, alors moi, je ne vais pas vous parler d'un magazine ou de choses comme ça. Moi,
non, la bonne nouvelle, c'était quand même Astier.
Ah, pardon. Ah oui, quelle bonne nouvelle.
Ah oui, excuse-moi du peu.
J'attends de voir le jeu. Alors, la bonne nouvelle, c'est la réédition en fait, chez Gigamic de Turlututu. Alors, Turlututu, chapeau pointu de son nom complet. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom-là. Je trouve que bon, enfin bon, c'est un peu raté. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la réédition en fait, du jeu qui s'appelait Ouche Ouche ou Petite Sorcière, qui est un vieux jeu qui est sorti il y a je sais pas, 15 ans au moins chez Ravensburger. Qui est un petit jeu de mémoire fait pour les enfants à partir de 4-5 ans. Que Ravensburger pendant longtemps a édité et qu'il a arrêté et qui était difficile de trouver en France. Et là, donc Gigamic le reproduit, va le distribuer en France. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Le concept du jeu, c'est tout bête. C'est des sorcières qui vont, qui font une course ou je sais pas, qui vont en un lieu. Donc si elles font la course.
Excuse-moi. Et tu vois pas le rapport entre chapeau pointu et les sorcières ?
Si, mais je trouve pas que le nom soit super. Turlututu, enfin bon.
C'est de la tétologie, ça, monsieur.
Ouais, je sais pas. Enfin bon, bref. Peut-être que pour les enfants, c'est bien. Le concept, donc il y a 5 sorcières qui font la course, évidemment de 5 couleurs, bleu, jaune, rouge, vert et violet. Mais elles sont cachées en fait, on leur met un chapeau dessus, un gros chapeau en plastique.
C'est un jeu de mémoire ?
Ouais, c'est un jeu de mémoire. Et à son tour, le joueur lance le dé, un dé à 6 faces, et qui va lui dire une couleur, par exemple bleu. Il faut qu'il soulève un chapeau, et si dessous c'est bien la sorcière bleue, il la fait avancer d'une case et il rejoue. Donc évidemment sur les 5 faces du dé il y a 5 couleurs et la 6ème face c'est pour échanger les sorcières, histoire de brouiller un petit peu les pistes. Donc une partie c'est bien sûr c'est 5-10 minutes maximum, et ce qui est sympa dans le jeu c'est que ne gagne pas forcément celui qui a le plus de mémoire, ça peut être simplement
celui qui a plus de chance.
Celui qui a eu de la chance, effectivement.
C'est vendeur, merci. Hein. Donc c'est un memory, mais bah, bon, alors... si vous n'avez pas trop de mémoire, vous pouvez gagner avec la chance.
Alors oui, mais je rappelle, c'est pour les enfants.
D'accord.
D'accord. Donc c'est pour les enfants, faut pas non plus... Il y a certains enfants qui ont moins de mémoire, ils seront bien contents de pouvoir gagner quand même. Parce qu'en fait, gagne celui qui amène une sorcière sur l'arrivée. N'importe laquelle, à partir du moment où il amène une sorcière sur la case d'arrivée, c'est tout.
D'accord.
Enfin, c'est par rapport à Picplume en fait. On parlait un autre jeu, Picplume, ou sa version light Picprune. On fera un dossier jeu enfant.
Picprune ?
Il y a Picprune, ouais.
Ah, je connais pas ça.
Moi, c'est un an.
c'est trop récent ou trop vieux ? Ça doit être trop vieux en fait.
Non, mais c'est normal, tes enfants sont plus grands et ne jouent plus à ce genre de jeu.
Ah, Picplume, tu rigoles ?
Encore ?
Bah attends.
C'est vrai que t'es un dernier qui. T'as Rainer qui va nous.
Tout à fait. Tout à fait. Et à 6 ans, ça carbure. C'est pour ça que. Bon, là, chez Gigamic, c'est 2 à 6 joueurs et à partir du 14.
C'est vrai qu'en plus, ils le sortent. C'est Gigamic qui se concurrent en semaine.
De 4 ans. De 4 ans. Pas de 14 ans. Donc à partir de 4 ans. Et je pense qu'à 4 ans, enfin, 4 ans, c'est peut-être un petit peu petit, mais 5-6 ans. Ils sont tout à fait capables de tenir tête à des adultes, il n'y a aucun problème là-dessus.
Mais celui-là, vu qu'il n'y a que 5 couleurs à mémoriser, il est pour des enfants de 4 ans. Ça se joue à 4 ans.
D'accord, donc vraiment tout petit.
Picplume, effectivement, les enfants tiennent. Bon, je les modifie de tenir tête, de me tenir tête à Picplume. Hein, mais...
Toi ?
Ouais.
Ouais.
Une fois que j'ai vu tous les pions au centre, après, c'est bon, hein. Je fais le tour.
Bon, ben.
Voilà, d'autres enfants.
Voilà, ben, vous le connaissez sous son meilleur jour. On va peut-être passer. Hein.
On coupera ça en montage.
Non, je crois pas. Non. Je ne crois pas. La dernière fois, c'est moi qui suis passé pour un zouave. Cette fois-ci, c'est tout.
Voilà, mais bon, ceci dit, si vous avez des enfants en bas âge, vous avez un cadeau à faire des enfants. Turlututu.
une petite turlututu.
Voilà, voilà, exactement. Voilà. Bon, c'est un jeu pour enfants, donc ils n'y verront pas d'allusion.
Et maintenant, les écrans ?
Allons-y pour les écrans. Alors, une actualité peut-être un petit peu moins fournie que la dernière fois. Et en plus, malheureusement pour nos auditeurs sur Android, j'ai rien pour eux. Ni sur PC non plus d'ailleurs.
Sur PC, si. Moi, j'ai quelque chose.
Ah, c'est bien. Bon, parce que moi, je m'étais dit que je testerais Stone Age sur Board Game Arena, mais je m'y suis toujours pas mis.
D'accord. Donc, on va peut-être parler...
Dans deux semaines.
On va peut-être parler de ce qu'on a fait plutôt que de alors... voulu faire. Sinon, on va faire la soirée pour rien dire.
Voilà. Non, mais c'est pas grave, ils ont du temps, les auditeurs. Alors, on va parler, je voulais vous parler tout d'abord de... qu'est-ce qu'on peut parler ? Ah oui, celui que j'ai raté il y a deux semaines, Neuroshima X, les puzzles. Alors,
on va peut-être,
je vais préciser. Ouais, ouais,
il faut déjà dire ce que c'est que Neuroshima X, c'est... et puis après on parlera...
Un excellent jeu.
Voilà, de la du portage sur iPhone, iPad, et après de la version puzzle.
Voilà. Donc Neuroshima X, c'est un excellent jeu. Voilà, c'est bon. Ensuite, donc c'est un jeu...
tchèque. Polonais.
Ah, polonais.
Bon. Polonais. Je t'ai coupé, là.
Bah oui. Moi, j'ai rien, mais bon. Alors, donc, c'est un jeu polonais, c'est chez Portal. Alors, j'écorcherai pas le nom de l'auteur, donc je ne le dirai pas. L'univers, c'est un univers post-apocalyptique, et c'est des conflits entre des gangs, je sais pas, enfin, des gangs armés, qui se battent pour... c'est un peu comme Terrain Vague de Ludodélire, hein, ils se battent pour un pauvre terrain un peu délabré. Le principe, c'est que ça se joue avec des tuiles. Chaque camp est à ses propres spécificités, chacun a une base, et va avoir des tuiles d'action et puis des tuiles d'armée. Donc chacun ayant une spécificité, il y en a qui sont plus forts sur le tir à distance, sur la mêlée, etc. Ça se joue sur un plateau hexagonal.
Qui est assez petit, c'est pas un gros plateau en fait, bizarrement.
Surtout à deux, ouais. Alors c'est un jeu qui peut jouer de 2 à 4. Moi, je l'ai pratiqué essentiellement à deux parce qu'en plus, de toute façon, on a le plus de maîtrise sur ce qui se passe.
Oui, parce qu'il faut peut-être dire que c'est un jeu un peu de réflexion. C'est pas un puzzle à la base, c'est-à-dire que c'est quand même un jeu. C'est pas un.
Ah oui, hein, pour les passionnés de Ravensburger 500 pièces ou du 2000 pièces, ils vont être déçus.
Non, c'est un jeu où il faut réfléchir, où on peut pas faire n'importe quoi.
Ça se joue bien. C'est un jeu de société à la base. Hein. Ça se joue très bien. Il y a eu une extension qui est sortie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les choix sont importants quand même parce qu'à son tour de jeu, enfin, au maximum, on a 3 tuiles en main. Et sur les 3 tuiles, à chaque tour, il faut en défausser une. Systématiquement. Le choix déjà de savoir laquelle on va défausser n'est pas toujours évident à faire. Et ensuite, les 2 autres qu'on a, on peut les jouer, mais on n'est pas obligé, on peut aussi en garder pour plus tard. L'autre particularité du jeu, donc, c'est qu'on place ces tuiles sur le plateau. Une fois qu'elles sont placées, souvent, elles vont y rester. Il n'est pas toujours possible de les redéplacer, donc il faut bien calculer. Il faut toujours bien se positionner entre défendre sa base ou se positionner pour éliminer des unités adverses ou faire des dégâts à la base adverse.
Oui, parce que
les bases ont 20 points de vie.
Tu expliques. Oui, le but du jeu, c'est de détruire la base.
Détruire la base adverse.
Tout à fait.
Ça coule tout le sens.
Ça va sans dire.
Ça va sans
ça
dire.
Va mieux en le disant.
Ça va mieux en le disant, mais bon. Le but, hein, c'est de défoncer l'adversaire.
Voilà.
C'est tout. Il faut leur péter la gueule. Et donc, le concept... donc, il faut bien choisir les tuiles. Et ensuite, les combats ne se résolvent pas à chaque tour. Ils sont résolus uniquement quand un des joueurs joue une tuile combat. Donc déjà, à chaque tour, on pioche seulement ces tuiles. Donc, on n'est pas sûr qu'on va en avoir. Donc, il faut toujours optimiser ses coups de manière à ce que le plateau soit le moins désavantageux possible si on ne joue pas de combat et que l'adversaire en joue. Voilà pour le jeu de société. Donc, il existait une version iPhone, iPad depuis plus d'un an. Qui était... très bien réalisé, il faut le reconnaître. Hein. Un certain nombre de jeux de société sont portés sur les iPad, iPhone, mais rarement ils le sont aussi bien que Neuroshima X.
Et puis il existe aussi une version online visiblement, c'est-à-dire une version en ligne sur ordinateur. C'est pas ce qui nous intéresse actuellement.
Non, je pense pas que ce soit du niveau, parce qu'en plus la version... Donc au début il y avait qu'une version iPhone, la version iPad est arrivée sur le tard. Mais c'est pas grave, je jouais quand même sur l'iPad avec la version iPhone en la zoomant. Donc maintenant, c'est sûr, les graphismes sont plus jolis. Super, on pourra couper.
Quoi ?
Je te regarde jouer.
Je t'écoute plus depuis tout à l'heure. Donc,
ce que je veux dire.
Vas-y, reprends.
Voilà, donc le Neuroshima X, voilà, de base sur iPad, iPhone, permet de jouer contre une IA qui n'est pas bête du tout, qui se débrouille bien, qu'il va falloir bien faire attention à maîtriser. Il y a 3 niveaux de difficulté sur l'IA.
Ah bon ?
Ouais. T'as déjà joué ?
Oui. C'est pour ça que je m'interroge, en fait.
On peut régler 3 niveaux de difficulté sur l'IA. Évidemment, les points impartis, quand on la met en mode facile, c'est bien pour l'apprentissage. Ensuite, on monte rapidement les échelons. En niveau 3, il faut bien faire attention. Ouais, c'est pas si simple que ça. Non, mais il y a des jeux, l'IA, même en mode difficile, quand on maîtrise le jeu, il n'y a aucune, il n'y a aucun honneur à la battre. Là, non, c'est pas le cas. Les parties sont très rapides. Contre une IA, la partie se fait en moins d'un quart d'heure. C'est vraiment... on veut se faire un petit break à un moment dans la journée, paf, on sort l'iPad et c'est parti. En 10 minutes, on s'est fait une partie, c'est très très agréable.
Une petite précision, il y a 19 cases en fait sur le plateau de jeu.
Oui, c'est un petit hexagone de 3 cases de côté.
Voilà, je reviens sur le fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place.
Parce que c'est le plateau pour 2 joueurs.
Ouais, mais je pense qu'on va ne parler que du...
Oui,
de version pour 2 joueurs. Parce que,
voilà. Ouais. Voilà. On peut jouer aussi à plusieurs humains hein, sur la version Neuroshima X de base. Donc la bonne idée et l'objet de la news quand même, on va y arriver, c'était qu'ils ont sorti une version puzzle. La version puzzle, c'est ni plus ni moins 100 tableaux, 100 missions à résoudre. Donc les premières missions, évidemment, c'est découpé par chapitre de 10 missions. Les 10 premières missions, c'est un tutoriel où, bon, Olivier a du mal a priori. Je pense qu'il lit pas le texte en fait. C'est dommage, il lit pas sa mission. Mais c'est un tutoriel pour apprendre à maîtriser le jeu pour les concepts de base. Ensuite, à partir des 10 missions suivantes, on commence à apprendre un petit peu plus de subtilité avec les modules qui vont donner des pouvoirs aux tuiles qui sont autour, au déplacement des unités, etc. Et ensuite, à partir des niveaux du niveau 21, etc., on rentre dans le vif du sujet. Alors, je ne l'ai pas encore terminé, donc je ne pourrais pas vous dire le niveau final, parce qu'on ne peut pas jouer au niveau 100 avant d'avoir fait quasiment tout le jeu. Donc j'ai pas tout testé encore, mais c'est vraiment c'est très agréable. Très rapidement en fait, on ne réussit pas la mission du premier coup. Ça demande vraiment à réfléchir. Donc ça nous pose devant des situations qu'on ne rencontrerait pas dans le jeu normal, et ça le rend finalement presque plus addictif déjà que le Neuroshima X de base. Voilà, donc il est disponible sur l'App Store. Il est à 2,39€ pour iPad et iPhone. Donc la version universelle. Donc si vous l'achetez, vous avez plusieurs êtes fortuné et que vous avez plusieurs terminaux Apple, vous l'achetez qu'une fois et vous pouvez le déployer sur tous vos terminaux. Par contre, je crois qu'il est que en anglais. Tout est en anglais, voilà.
Alors, juste pour ceux qui connaissent les graphismes du jeu de base, du jeu société, ce sont les mêmes graphismes qui sont repris. Je pense que jouer sur un écran d'iPhone, c'est quand même assez petit. Il faut la place. C'est très bien fait, visiblement. Là, je suis en train de comme vous pouvez vous en douter, je suis en train d'essayer pendant que Jérémy parle. Je pense que effectivement la partie tutoriel est bien, parce que ça permet de faire le tour des différentes règles et puis de pouvoir rentrer dans le jeu et puis d'être efficace au bout du dixième niveau. Mais effectivement, si on ne peut pas passer directement au niveau 10 quand on connaît le jeu, c'est un petit peu embêtant. Par contre, au niveau de la maniabilité, c'est juste parfait. C'est-à-dire que on a ces tuiles sur le côté, on a un menu qui est clair, on peut placer ces tuiles facilement, on peut les tourner facilement aussi. C'est juste très très bien fait. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de...
Il faut juste connaître les règles par contre, Olivier.
C'est ça.
C'est yes. C'est ça. Tu l'as placé que d'un hexagone.
Ouais. J'essaie de déplacer un militaire qui tire de loin. J'essaie de le mettre un peu n'importe où et ça ne marche pas. Donc ouais, pour moi, c'est une vraie réussite. Et je pense que ça vaut largement les 2,39€.
Très très largement. C'est vraiment, comme je dis, sur les jeux, multiples jeux iPad qui existent, celui-là, c'est vraiment... ça fait partie des meilleurs. L'autre actualité...
Mais non, mais tu devais nous mettre un peu de son.
Ah, pardon, on recommence. Rewind. Ouais, mais je voulais le mettre après.
C'est les aléas du direct, il faut pas se...
Ouais.
Alors c'est... attendez, on recommence. Et banque deuxième.
Ouais, je profite de ce petit coin de verdure pour vous parler de Bang. Ah donc Bang, c'est le jeu qu'on ne présente plus.
Si, il va falloir le présenter aussi, évidemment. Oui. Un jeu de chez Da Vinci, sans doute l'une de leurs plus belles réussites. qui avait été édité par Tilsit il y a un temps, maintenant je pense que c'est Asmodée.
Enfin, ils ont fait Leonardo aussi.
Ouais, donc il y a Bang. Tu parles de réussite commerciale. Hein. Je parle pas après au niveau intérêt du jeu. Donc Bang, c'est un jeu sur le thème du western. C'est un jeu qui peut jouer à 5 joueurs. Je sais pas combien c'est, 3 à 8 joueurs, je crois, la version normale.
Ouais, au moins, ouais.
Là, sur l'iPad, on peut jouer de 3 à 5. Le but, donc, c'est sur le thème du western. Donc, il y a un joueur qui va jouer le shérif, d'autres joueurs qui vont jouer les gangsters, les renégats. Non, les gars, un renégat. Il y a l'adjoint aussi au shérif. Le shérif a un adjoint. Voilà, on va y aller dans l'ordre. La loi, c'est le shérif.
Alors, attends, je vais expliquer. On a un shérif, un ou deux adjoints. On a des bandits et un renégat. Le renégat gagnant tout seul. Les bandits gagnant en tuant le shérif. Et les, bien sûr, les députés, les adjoints du shérif. Tiens, je vais couper la BO et je vous mettrai autre chose en post-prod là-dessus. Non, mais s'il te plaît. Donc l'idée, c'est que les gens se mettent autour de la table. Le shérif, lui, est connu. Les autres joueurs ont des rôles et leur rôle n'est pas connu des autres joueurs. Donc par exemple, je peux dire, je suis un adjoint du shérif, je vais le protéger alors que je suis un bandit, voire même un renégat. C'est plutôt ça qui va se passer. À partir de là, on va tous, chacun à son tour, jouer pour s'équiper. On va piocher et jouer des montures. On va s'équiper avec des carabines ou des revolvers. Et puis, à un moment, ce qui va se passer, c'est bang, on va tirer. Et on va tirer selon son arme, plus ou moins loin. Donc on va avoir des situations où même si on est renégat ou bandit, on ne va pas pouvoir tirer sur le shérif. Toujours est-il que les rôles vont se découvrir petit à petit. C'est un jeu d'ambiance, donc quand chacun joue son rôle et où il y a la suspicion qui plane, ça peut être très très rigolo. Je te rends la main, c'est maintenant un jeu iPad.
Voilà, donc maintenant on peut y jouer sur iPad. La bonne nouvelle, c'est que celui-là, il est dans plusieurs langues, dont le français. Donc dans le jeu, on peut jouer plusieurs modes. Alors il y a un didacticiel, en gros, qui va vous expliquer comment prendre en main le jeu et qui va vous expliquer la règle, tout comme Olivier vient de le faire. Il existe un mode solo, où on pourra jouer contre l'IA. Donc maximum, il y a 5 joueurs autour de la table, enfin 5 joueurs virtuels, enfin 4 joueurs virtuels, on va dire, et un joueur humain, sinon la version solo. On va pouvoir choisir un mode facile et un mode normal. Dans le mode facile, en gros, en fait, dans le jeu ici, les joueurs ont des personnages. Des personnages qui vont leur donner des pouvoirs.
Oui, dans le jeu, oui, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire dans le jeu de société. Effectivement, en plus de son rôle, chaque joueur va piocher un personnage qui va, par exemple, avoir un point de vie supplémentaire ou qui va pouvoir tirer deux fois. Enfin, les personnages ne sont pas tous équilibrés, ça on s'en fout. Parce que de toute façon, Banks, c'est pas très long. L'idée, c'est de se faire plaisir, rigoler un bon coup et puis... S'il y a quelques moments où y a un héros qui est enfin un personnage qui est trop trop puissant, c'est pas très très pas très très important.
Voilà, donc pour les personnages, donc en mode facile, en fait les personnages c'est juste pour le personnage, mais ils ont pas de pouvoir associé. C'est sur la version iPad. Hein. Mm-hmm. Le jeu normal, je me rappelle pas s'il y a une mode comme ça. Une fois qu'on a lancé la partie, c'est assez simple. Donc les rôles sont attribués et les personnages sont attribués de manière totalement aléatoire.
Il y a toujours 5 joueurs. Quel que soit le nombre de joueurs humains, on a X joueurs humains plus...
Non, là, c'est moi qui ai choisi de mettre 5 joueurs parce que le jeu est plus fun.
D'accord. Oui, il y en a nombreux. Il faut de toute façon qu'il y ait au moins un shérif, un député,
voilà.
Là, deux bandits et un renégat, donc ça fait 5.
Ouais, c'est ça. Sinon, à 3 joueurs, je vais pas essayer. Il faudrait que j'essaye là. Mais...
Non, c'est naze.
Mais je pense pas que ce soit intéressant. Donc on pioche ses cartes, on joue les cartes, on peut tirer sur les adversaires, etc. C'est correctement présenté, c'est animé, les cartes, etc. Quand on se verse une bière, il y a le bruitage qui va bien avec. Quand on tire, il y a bien le bruit du pistolet. Tout est assez bien accompagné.
Et la bière permettant de regagner de la vie.
Oui, la bière permet de regagner de la vie.
La bière, c'est la vie.
Donc la réalisation est impeccable. Il n'y a rien à dire. Après, c'est pas non plus... Alors, en fait... on va dire, le défaut que je vois dans le jeu, c'est pas vraiment un défaut, mais Banque, c'est un jeu d'ambiance, on joue autour d'une table, on rigole tous ensemble.
Ah oui.
Et là, on va jouer contre l'ordinateur, donc il perd un peu de sa saveur. C'est sympa, ça passe le temps, on fait une partie, mais je sais pas si on en fera beaucoup contre les ordinateurs. Ça va devenir un peu plus tactique, je pense.
Bang et tactique, chercher l'erreur.
Ouais, mais tout seul contre 4 ordinateurs, ça va manquer d'ambiance. Hein. Ils vont pas nous envoyer des vannes, il y a pas tout ça. Il y a une jolie musique d'ambiance, il y a des jolis bruitages, mais il y a pas encore les vannes.
Ça, c'est quoi cet écran noir là?
Je sais pas. T'as mal cliqué. Bah, ouais. Il est en débug le jeu.
Et bon, tiens, je t'en rends l'iPad.
Il m'a porté l'iPad. Et ensuite, donc le mode, il existe un mode où on peut jouer à plusieurs. Alors, deux modes pour jouer à plusieurs. Un mode pour jouer
plusieurs
en ligne,
humains, tu veux dire.
Plusieurs humains, ouais, plusieurs joueurs. Oui, c'est du multijoueur. Alors, on peut jouer à plusieurs. Bah, j'ai écran noir. Il veut plus se lancer. Super.
Alors. N'achetez pas ce jeu.
Non, mais il est en rodage. Je reviendrai après. Il y a encore plein d'évolutions qui doivent arriver dedans. Alors, donc en fait, deux modes multijoueurs. On peut jouer en ligne. Enfin, on pourra jouer, en fait, parce que quand on clique dessus, on nous dit « Ah bah non, pas tout de suite, il faudra attendre la prochaine mise à jour. » Mais je pense que c'est là où le jeu gagnera son intérêt. On peut jouer sinon à plusieurs sur le même iPad, mais dans ces cas-là, il faut se le passer. Et le problème du jeu, c'est qu'il faut se le passer quand on joue son tour, mais quand on joue également une carte bang pour tirer sur un adversaire, il faut lui passer l'iPad pour qu'il dise si oui ou non il a une carte qui lui permet d'échapper au tir.
Alors là, tu vois, tu me vois fort marie de ce que tu viens de me dire. Parce que non seulement c'est plus un jeu d'ambiance, mais en plus,
voilà.
C'est un peu compliqué. Ça veut dire, c'est.
Ouais, ou alors les gens regardent l'écran et puis c'est pas grave, on sait ce que l'autre a en main, mais c'est pas terrible.
Ah non, il faut pas ça.
Bah non, mais bon. Ou alors il faudrait qu'ils fassent la version avec chacun son iPhone.
C'est ça.
Ça coûte pas cher le jeu.
C'est ça. T'as pas d'iPhone, tu rentres pas.
C'est déjà 3000 euros.
C'est ça.
Pour 5. C'est super. C'est un peu comme le Scrabble.
Oui, où chacun a ses lettres sur son iPhone.
Voilà.
Et où
le
l'iPad.
Plateau, c'est l'iPad.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est le jeu pas cher non plus.
Il est fort, ce Steve Jobs.
Donc, voilà. Donc, voilà pour les modes qui existent. À noter aussi dans les futures mises à jour, l'arrivée de nouveaux personnages. Parce que pour l'instant, des personnages, il y en a moins d'une dizaine de disponibles. Mais ils font du teasing, eux aussi, ils sont très forts. Puisqu'ils nous présentent déjà tous les personnages. En tout cas, les visuels. Et ils disent que la plupart sont indisponibles et qu'ils arriveront plus tard dans une mise à jour. Alors, j'espère que la mise à jour, ce sera gratuit. Mais rien ne le dit. Voilà, c'était Bang à essayer quand même. Enfin non, on pouvait pas, il n'y a pas de version light. Trouver quelqu'un qui l'a.
Ouais, je suis perplexe.
Ben, c'est bien réalisé en plus, hein, mais c'est vrai que pour un jeu d'ambiance, ça va perdre un peu de son état. Ouais, on peut jouer. Non, l'iPad c'est un peu gros à se passer, il faut jouer sur iPhone. À 5 sur un petit écran. Donc le jeu il est vendu sur l'App Store, il existe en français, il est à 1,59€ pour iPhone et à 3,99€ pour iPad. Voilà, il n'y a pas de différence à part les graphismes.
Attends, c'est pas universel.
Non, il n'est pas universel, bah non.
Donc si tu veux, c'est 4€
pour l'iPad. Ouais, c'est un prix correct pour un iPad. Le seul problème c'est que dans ces cas-là, on peut quasiment acheter la version iPhone et la jouer en zoomé, comme j'ai fait.
Et Neuroshima X est à 2,39€.
Oui, et c'est une tuerie.
Il faut acheter Neuroshima X. Bon, ah bon. C'est moins...
Non, mais si vous devez avoir 3 jeux de société sur votre iPad, il y en a 3 de toute façon. C'est Neuroshima X, c'est Carcassonne, c'est Small World.
Tout à fait. Et Small World, j'irais même plus loin.
Il faut les extensions. Mais...
Acheter les extensions.
Mais c'est pareil pour Neuroshima, il vous faut le puzzle. Donc on a augmenté un petit peu déjà le nombre de jeux.
Oui, mais à la base, c'est des jeux de société qui sont... Enfin, quand tu achètes le jeu de société, la boîte de jeux de société, tu vas la payer 40€. Là, t'as un jeu de société, Small World, il y a l'imitation parce que
tu joues à deux.
Tu joues à deux, mais ça, c'est la limitation. Après, tu n'as pas à mettre le plateau en passe. Tu n'as pas à trier tous les pions, à te faire suer avec tous les petits pions de peuple.
Ouais, mais c'est moins joli. On voit moins de choses. If I am guilty, I will pay. On vous mettra le lien sur le site, enfin Olivier. On mettra le lien d'une bande annonce, enfin, c'est une présentation en fait de Trader, un jeu chez Cocktail Games, qui est le fameux éditeur boîte métal. Donc Trader, c'est sorti il y a 2 ans, c'est un petit jeu de cartes assez sympathique. qui joue à 2, 3 ou 4 joueurs et qui arrive bientôt sur iPad. Voilà. Enfin, je voulais terminer quand même la rubrique écran par un petit clin d'œil à Olivier avec son t-shirt qu'il avait bien caché. Voilà, il a la Princess Peach. Alors, il va nous dire d'où il le sort. Il est super, ce t-shirt. Alors, au début, j'ai pas fait gaffe, en fait, que c'était Peach.
Parce oui, que... t'avais une belle blonde lascive sur un...
Non, j'ai pas tilté. Enfin, bon, je connais tes t-shirts habituels, voilà. C'est pas...
Pardon, sur...
C'est pas ça, c'est le petit champignon qui faisait bien avancer au style Mario. Et l'étoile à côté, là, je dis, mais on dirait du Mario. Et effectivement, après, je me suis dit, ah, mais oui, c'est les fleurs, c'est les plantes carnivores, et donc c'est Peach. Voilà, donc tu peux nous dire d'où vient ton t-shirt ?
Oui, c'est T-Fury.
C'est T-Fury, voilà, c'est super. Un t-shirt à avoir si vous êtes fan de jeu.
Un t-shirt de geek. Eh bien, Jérémy, on arrive au moins à l'heure d'enregistrement. On n'a pas fait notre dossier. On a parlé.
C'est la deuxième fois d'affilée qu'on
c'est
fait
ça. On a parlé des jeux pour enfants, on a parlé des jeux solo. On va essayer de revoir un petit peu notre ligne éditoriale. C'est soit on fait plus long et puis on a le temps de parler d'autres choses, soit on fait. On va essayer de couper un petit peu, mais je pense que. Peut-être bon. Que.
À nos auditeurs de voter.
Voilà, alors,
dites-nous dans vos commentaires ce que vous voulez voir ou pas voir.
Laissez-nous un petit mot en nous donnant la permission d'être un petit peu plus long et de faire un podcast entre 1h30 et 2h. Alors, en l'occurrence, on se limite. On ne veut pas aller plus loin qu'une heure et demie. Donc, on va passer à l'Open the Box. Et aujourd'hui, ce sera Hive. Et pour une fois, c'est moi qui m'y colle. Donc, c'est un jeu pour deux joueurs, exclusivement deux joueurs, qui se joue avec des hexagones de bakélite, qui ont à peu près 5 cm de largeur, et qui représentent des insectes. Donc, on a des fourmis, qui sont bleues, des araignées, qui sont marrons, des sauterelles, qui sont vertes, des scarabées, mauves, et puis... la pièce la plus importante du jeu, qui est l'abeille. Alors, par la suite, il y a eu deux extensions. Oui, l'abeille, c'est la reine. Il y a eu deux extensions qui sont le moustique et la coccinelle. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, le but du jeu, c'est d'encercler, grâce à ces pièces, la reine adverse. Le premier joueur, celui qui est blanc, commence. Excusez-nous pour le bruit. Et va poser... en fait, doit poser... sa reine dans les trois premiers tours. T'es obligé de la poser d'abord.
Ouais, poser la sauterelle.
Ensuite, le joueur noir va poser une de ses pièces et forcément va composer le plateau en posant sa pièce contre la pièce adverse. Alors, oui, c'est la
petite précision,
fois.
Il n'y a pas de plateau en fait. On joue sur la table.
Tout à fait. Quand je dis composer le plateau, c'est Hive, ça veut dire essaim. Et donc, on crée un groupe d'insectes. Qui va évoluer, qui va changer au fur et à mesure de la partie. Donc, quand on pose, quand le joueur noir va poser sa première pièce, c'est la seule fois de la partie qu'il va pouvoir poser directement une pièce à côté d'une pièce blanche. Ensuite, la règle de pose, c'est qu'on pose un de ces insectes à côté, exclusivement à côté d'un de ces insectes, et collé à l'un des côtés de ces insectes. Donc, par exemple, on n'a pas le droit de poser une sauterelle noire à côté d'une sauterelle blanche, même si il touche aussi une autre pièce noire. Donc, blanc va jouer, il va poser une de ses pièces, ou à ce moment-là, étant donné qu'il aura déjà une pièce sur la table, il va pouvoir la déplacer. Alors, le déplacement est très simple, parce qu'il y a un nombre limité de pièces. La fourmi, c'est... le joker, elle va où elle veut, elle se déplace d'un nombre de côtés, parce que là on compte en côtés en fait. Donc elle se déplace d'un nombre de côtés. Voilà. C'est pas très français comme phrase. Je suis perplexe sur la grammaire, la construction grammaticale de cette phrase.
Elle se déplace comme on veut.
Voilà. Elle se déplace du nombre de côtés.
C'est une fourmi.
Que l'on veut. au contraire de l'araignée qui, elle, se déplace de quatre côtés. Donc, si je pose mon araignée contre une pièce, je vais la déplacer. Une, deux, trois. La reine, elle se déplace de la même façon, mais d'un seul côté. Donc, elle se déplace vraiment très, très, très peu.
Comme le roi aux échecs.
Tout à fait. Et dans ta comparaison, la fourmi serait la reine. Ensuite, on a le scarabée qui se déplace également d'un côté, mais lui qui a la particularité de pouvoir monter sur une pièce, que ce soit une pièce de sa couleur ou une pièce adverse. Il y a une règle, une des rares autres règles, qui dit qu'on n'a pas le droit de scinder le groupe en deux. Donc dans ce déplacement, dans les déplacements, chaque fois qu'on fait un déplacement, on n'a pas le droit de déplacer une pièce et de créer un site de groupe. Donc le scarabée, lui, sa particularité, c'est qu'il peut monter sur une pièce et il bloque en fait une des pièces adverses. Et puis il reste la sauterelle, et vous l'aurez deviné, elle va sauter au-dessus d'une pièce adverse ou d'un groupe de pièces adverses, elle va se placer de l'autre côté. Donc elle se déplace en ligne droite au-dessus de pièces adverses. Donc ça peut vous paraître un petit peu flou.
Peut-être préciser le but du jeu quand même. Et il n'y a pas de prise déjà dans le jeu.
Non, non, alors d'abord tu réécouteras ce podcast magnifique.
S'il n'est plus au début.
Oui, c'est tard. Hein, il est,
Au pire, il le rajoutera au montage en fait.
Oulala, Pépé, il va falloir que tu ailles dormir bientôt. Ouais. Oui, le but du jeu, c'est d'encercler la reine adverse, donc l'abeille adverse. Ça, je l'ai dit au début de partie. Il faut toujours dire le but du jeu quand on commence à expliquer une règle. Ce que je voulais dire, c'est que vous retrouverez, on va, comme à notre habitude, filmer cette explication de règle et vous allez pouvoir retrouver ça sur notre site. Je vais passer aux deux extensions qui ont vu le jour. Bon, pour moi, Hive, c'est un excellent jeu dans le sens où il est facile à apprendre. Le déplacement des pièces correspond bien aux différents insectes. Par exemple, le scarabée, c'est quelque chose qui peut monter sur d'autres insectes. Ok, j'ai rien dit, je vais couper ça.
Non, mais c'est vrai, on est assez proche du déplacement des insectes.
Donc,
c'est un excellent jeu tactique en fait, qui est parfait pour les jouer avec des enfants quand ils ont l'âge 7-8 ans, je pense que c'est parfait.
Tout à fait, c'est pas très très long. Et puis...
beaucoup de choix.
On peut leur apprendre ainsi à perdre. Et à perdre...
ils ont déjà pris plus longtemps avec nous.
Et à continuer à jouer avec nous. Donc, deux extensions. D'abord, l'extension moustique. Le moustique, lui, quand il est accolé à un autre insecte, il va se déplacer de la même façon. C'est-à-dire que si mon insecte mon moustique est collé à côté d'une sauterelle, il va devenir sauterelle et il va devoir sauter par-dessus d'autres pièces. Puis s'il se retrouve le tour suivant à côté d'une araignée, il va pouvoir se déplacer comme une araignée. Et la coccinelle...
Là, on ne retrouve pas trop le déplacement par rapport à l'insecte de base.
Non, pas du tout. C'est-à-dire le moustique n'est pas un caméléon. Mais bon, ça c'est dans ce genre de jeu où le thème est plaqué sur la mécanique, mais ça marche plutôt pas mal. Et puis, oui, parce que l'abeille non plus, elle reste pas dans son coin. Enfin, tu me diras, la reine, elle reste dans la ruche. Bon, passons. Et la coccinelle, elle va monter, elle peut monter et faire deux déplacements sur des pièces et puis redescendre. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir traverser, par exemple, un groupe d'insectes, puis se passer de l'autre côté. Dernière chose, c'est le plaisir de toucher les pièces. Je vous renvoie au projet GIPF de Chris Burm.
C'est un bec élite.
C'est ça, c'est des pièces qu'on aime toucher, qu'on aime prendre en main, qui sont belles.
Elles font 1 cm d'épaisseur, on n'a pas précisé.
Oui.
L'épaisseur est importante aussi.
Tout à fait, c'est quelque chose où... Alors, c'est bien aussi avec les enfants, vous pouvez leur...
Ils ne vont pas le casser. Hein.
Oui, c'est-à-dire que mon jeu a vécu et il est encore en très très bon état. Voilà, c'était Hive. Un jeu que j'aime beaucoup.
Tu nous rappelles l'auteur?
oui, tout à fait. Alors, pour expliquer, le jeu est vendu avec un petit sachet. Donc j'ai jeté la boîte, j'ai gardé le sachet, mais sur la boîte sur le sachet il y a bien marqué Hive.
Il n'est pas non plus la règle du jeu.
Non.
J'ai son initial de prénom, c'est J, mais c'est un Allemand, donc ça doit être Jens Yanni.
D'accord.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre?
En fait, le jeu à la base, il l'a sorti en auto-édition. Et les pièces, elles étaient encore plus belles. C'était des grosses pièces, encore plus grosses que ça, en bois. Mmh. Avec des autocollants posés sur le bois, parce que c'est un petit peu moins joli. Il avait un stand à Essen, là, au salon du jeu allemand. Donc voilà. Et son jeu a forcément été remarqué. Je crois qu'il a eu un prix alors qu'il était en auto-édition. Et ensuite, donc, il a été réédité. Ensuite, maintenant, je crois que c'est côté Allemagne. Je sais pas comment il s'appelle. C'est Hutch.
Je pense qu'il l'a réédité. Et en France, c'est Gigamic.
Ah, c'est Gigamic. Mais c'est normal.
Ouais. Ah bah tiens. Non, alors c'est pas Jens, c'est John.
Ok.
Voilà, donc première version, elle était en 2001. Donc ça fait déjà 10 ans quand même, l'air de rien. Le jeu est encore là, c'est la preuve que c'est un excellent jeu.
Et sorti cette année 2006.
Sorti la version carbone.
C'est ça, noir et blanc.
Mais est-ce qu'ils l'ont sorti en France?
Je ne sais pas. Ah, et à noter que The Hive est un groupe de garage punk aussi.
Oui.
Mais là, on s'éloigne un petit peu du... Non.
Je te passerai une musique, tu la mettras en fond.
C'est vrai?
Ouais.
Ok.
J'espère que je me prends pas de groupe. Il me semble que j'ai ça. Joy Green.
Très bien, très bien. On va prendre notre petite caméra, on va faire nos petits 5 minutes d'explication de règles qu'on va mettre sur le site. Merci beaucoup d'être
encore
resté
là.
Jusque c'est si je compte bien, c'est 4 fois 20 minutes de d'attention. J'espère que on s'est un petit peu décontracté et que ça vous plaît plus que dans les premiers numéros, parce que nous on est mieux. Enfin, je sais pas, t'es mieux toi?
Ah, ça va beaucoup mieux.
Mais moi aussi, je suis mieux.
Surtout avec la bière.
Voilà. Notre site podcast.proxy-jeu.fr. Vous y trouverez toutes les références à ce dont on a parlé aujourd'hui, avec des liens hypertextes, avec des renvois. Vous pourrez laisser des commentaires, vous pourrez nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, si on est trop long, si on est trop mou. On essaie d'être un petit peu plus vivant cette fois-ci. Si vous voulez nous laisser des thèmes à aborder, n'hésitez pas, bien qu'on essaye encore une fois de ne pas faire trop long, et donc on se restera un petit peu sur les thèmes à aborder. Dans le prochain numéro, promis, juré, craché, on aura forcément, on va vous parler forcément de JSP, des magazines papier qu'on trouve mais qui ne sont pas gratuits et auxquels on peut s'abonner. Et puis, promis, juré, craché, on vous fera aussi un dossier. Je regarde Jérémy et.
On crache pas chez moi.
Bon, on crache pas chez toi, mais on va essayer quand même de faire un dossier. Les jeux pour enfants, on va sortir dans 15 jours.
On peut.
Donc, dans 15 jours.
Il faudra juste qu'il y ait un peu moins d'actualité, Olivier.
Non, mais on fera moins d'actualité et puis on vous parlera des jeux pour enfants. Pendant ce temps-là, la semaine prochaine, donc mise en ligne de ce podcast. Si tout se passe bien, si Dieu le veut, fin de semaine prochaine.
De toute façon, quand vous nous entendrez, c'est qu'il sera en ligne.
C'est ça. Donc, autour du 15 avril. Et la semaine prochaine, un dossier.
Et pas n'importe lequel.
Alors, on vous a beaucoup parlé des jeux narratifs, des jeux de rôle narratifs. J'étais rencontré une des traductrices de la boîte à eux. C'est ce qui m'a poussé à vous parler un peu plus précisément de ça. Donc, on pourrait vous mettre ça.
On va vous mettre. Maintenant que vous avez mis l'eau à la bouche, voilà. Il va bien falloir aller voir un peu plus loin.
Très bien, j'ai du boulot. Voilà, donc j'ai pas fait mon Follow Monday.
Il n'y en a pas.
Si, il y en a, mais ça sera pour la semaine prochaine. Tout se perd, ma brave dame.
Ah là là.
Et sinon, Proxy Jeux sur Facebook, sur Twitter, Proxy Jeux, et puis où
partout.
Et surtout iTunes. Mettez-nous des étoiles sur iTunes, c'est notre récompense. On est content quand vous mettez des commentaires, on est content quand on a un feedback, et le meilleur moyen de nous dire que vous appréciez notre travail, c'est d'aller sur iTunes, de voter. Quel que soit le commentaire, mettez 5 étoiles, et puis après vous nous dites ce que vous avez à nous dire. Merci, à bientôt.
À bientôt.